Oui, merci à Josiane Sverro, car c'est elle que je connais, c'est elle qui m'a appelé pour m'inviter. Normalement, je ne suis pas invité à des cérémonies sur le judaïsme marocain ou maghrébin, etc. Et je m'en porte très bien, car je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un nostalgique. Et dans ces réunions, que je comprends très bien, on a plutôt envie de... Les organisateurs, on sent qu'ils ont envie d'avoir une vision à long terme. Et s'ils pouvaient balayer tout le passé et le présent récent, sauf qu'ils se représentent chaque jour, le présent. Il n'est pas très ragoûtant. Donc s'ils pouvaient balayer tout ça pour construire une entente enfin rétablie, qui renoueraient peut-être dans leur tête très ignorante avec une entente originelle. Or, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux origines et des cultures, des individus qui viennent me parler, qui viennent m'apporter leur rapport tumultueux à leur origine. Et les origines des relations entre l'islam et les juifs, telles qu'elles se sont transmises à l'identique, pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des Européens. Il faut le savoir. Cette origine implique que les Juifs sont des maudits d'Allah, ça va de soi, mais que ce sont comme les chrétiens, mais surtout eux, parce qu'eux avaient le message et n'ont pas compris que la vérité de ce message, c'était la religion de la vérité, c'est-à-dire l'islam. Et comme ils se sont accrochés, ils ont eu un statut extrêmement spécial qu'on appelle les Dhimmi, le statut de Dhimmi, protégé. Et je vais faire un pas théorique devant vous et vous donner le moyen d'éluder ces va-et-vient qu'on entend constamment entre « oui, c'était très dur », etc. Mais c'était pas mal quand même, puisqu'on a vécu, on est resté là-bas. Oui, mais c'était très éprouvant. Oui, mais il y avait une convivialité. Oui, mais, etc. Et cette oscillation correspond à une paresse intellectuelle et aussi à une ignorance de l'histoire, qui fait qu'en réalité, le statut des Juifs, il faut le voir avec quatre acteurs. Il y a la masse juive, et il y a ses notables, ses élites. Ça rejoint ce qui a été évoqué. Et il y a la masse islamique et le pouvoir islamique. D'accord ? Pensez ces quatre acteurs. Et maintenant, je vais vous dire comment ça marche la dynamique. Le pouvoir musulman, il a un pacte de protection des juifs. Et il les protège de qui ? De la masse musulmane qui, ayant ingéré les textes traditionnels, le Coran, etc., se fait un devoir de les insulter au quotidien, de les brimer. C'est presque un acte rituel. C'est un rituel, les fusées, les roquettes du Hamas sur Israël, c'est un rituel pieux qui doit inscrire dans cette masse islamique comment elle s'acquitte de son devoir qui est de combattre les juifs. Et les juifs en terre d'islam étaient combattus, insultés, vilipendés, humiliés par la masse à tout moment. Et même après l'arrivée des Européens, moi je me souviens, j'étais là-bas, je raconte ça dans Marrakech, enfin sous forme de roman, mais il y avait des jours avec Pierre et des jours sans Pierre. Si encore on nous disait quel jour était avec Pierre, on se serait protégé en allant à l'école, mais justement c'était aléatoire. Mais ça venait du peuple, des gens. Mais le pouvoir, lui, qui les protège, il les protège moyennant impôts, moyennant paiement. Et cet impôt est à la fois fixé avec une grande marge aléatoire. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir, la veille d'une fête, des représentants du sultan ou du pacha qui débarquent et qui exige 50 kilos d'or immédiatement, si on veut passer la fête de Pessah tranquille. Et donc, on trouve là le truc, on paye, et on est tranquille, et on fait la fête. Et c'est festif, c'est là qu'il faut aussi bien comprendre qu'avec ces dynamiques, que ces dynamiques n'excluent pas, on met là des fêtes pittoresques, selon des visiteurs étrangers ou des gens qui lisent ce qui s'est passé, n'excluent pas la nostalgie, n'excluent, vous comprenez ? C'est-à-dire que nous avons acquis là-bas quelque chose qui est une qualité humaine extraordinaire, pour ceux qui l'ont acquise, c'est la capacité d'avoir en soi, presque en même temps, la détresse et la joie. Et quand on a ça, ça veut dire qu'on a compris que la ligne de partage qui partage le monde toujours et qui partage les individus passe à travers nous, ça nous donne une liberté, une force. Ceux qui n'arrivent pas à avoir cette contradiction en eux, ils sont clivés. C'est-à-dire tantôt ils sont dans la détresse, et là c'est la mort, etc. Tantôt il faut le faire, mais y a pas, ça ne communique pas. Chez nous, ça communiquait. C'est ça qui est formé. Et j'ai retrouvé la même chose cet été, l'été dernier en Israël, avec les fusées. J'ai senti, quand j'étais là-bas, que les gens n'étaient pas dans le clivage. C'est-à-dire, il y a des roquettes qui tombent, et puis on reprend la conversation là où on l'a laissée. Ce qui n'est pas un déni. Et là, je viens au vrai problème, qui a été d'ailleurs très bien posé par Georges Bensoussan. Le problème est plus grave qu'on ne pense. Le problème, c'est la nature du déni. La nature du déni, le déni, c'est une opération mentale. C'est un peu ce qui ma tâche, là, il me revient d'éclairer quelques points psychiques de toute cette histoire. Le déni, c'est une opération mentale où la personne, pour préserver une construction narcissique propre ou collective, doit impérativement nier les faits, même s'ils sont évidents. Il y a des criminels sexuels, je varie les exemples, des criminels sexuels à qui on dit, voilà, si vous reconnaissez les faits qui sont évidents, indiscutables, votre peine est allégée, et puis voilà, et ça vous fera du bien aussi de reconnaître la réalité, et certains ne peuvent pas. C'est très important, ça veut dire que certaines personnes ne peuvent pas reconnaître une certaine réalité parce que ça menacerait toute une construction. Alors qu'est-ce qui est menacé ici ? Pourquoi on ne veut pas reconnaître ça ? Eh bien, c'est quelque chose qui est fondamental pour le monde occidental et pour l'Europe. Je vais d'abord vous donner un exemple. J'étais l'autre soir à une conférence et j'explique comme ça que c'est très curieux que les trois causes de la culpabilité occidentale, européenne, sont le colonialisme, la traite des Noirs et les croisades. Et la personne à qui je dis ça baisse la tête chaque fois. Colonialiste. Oui, elle baisse la tête. Après, je lui dis, mais relève-toi. Parce que le vaste empire islamique s'est constitué à coups de djihad successifs, authentiquement colonialistes, chaque fois dans un temps. Ça veut dire, les troupes musulmanes arrivent dans un pays, et exactement dans la tradition coloniale, prennent les terres, confisquent les biens, mettent leurs hommes, et instaure un impôt écrasant sur les non-musulmans. Les non-musulmans résistent et craquent. Au bout d'un certain temps, ça a mis 2-3 siècles à ce que les musulmans soient majoritaires dans les pays conquis par les troupes musulmanes. Et donc, après, ce n'est plus un pays colonial puisque tout le monde devient musulman. On passe au pays suivant. Donc, il y a eu une logique coloniale et constitutive. Les croisades, mon Dieu, ben les croisades répondaient à quelque chose, à des guerres saintes qui ont conquis les lieux saints de Jérusalem sous le signe, non pas de la croix, mais du croissant. Ça change tout, mais On peut dire, il y a, je ne sais pas comment trouver un terme qui ne dirait pas croisade, mais croissanade. Ouais, et des croissanades avant les croisades, et les croisades ont répondu. Il faut lire les appels du pape, d'un pape urbain qui dit « Le Seigneur vous demande d'aller libérer ces lieux saints ». Évidemment, comme les humains n'ont pas toujours des réactions équilibrées, ben c'est parti avec un fantasme de faire un royaume de Jérusalem, etc. C'était pas génial. Quant à la traite des Noirs, des études érudites ont montré que la traite des Noirs menée par les Arabes a été plus importante que la traite des Noirs menée par les Blancs. Du coup, question, voilà trois causes de culpabilité rationnellement réfutables. Pourquoi donc l'Europe et l'Occident ont cette culpabilité face à l'islam? Voilà une question. Une culpabilité qui amène un déni. C'est-à-dire que pour établir qu'un acte antisémite est un acte antisémite, en France, il faut vraiment y aller, enfin, se tirer les neurones pour rédiger quelque chose qui se tienne. Parce que c'est pas possible. Ce sont des cas sociaux. Alors on trouve des gens qui sont pas des cas sociaux. Ils sont dans le besoin matériel. On trouve, je ne sais pas, Ben Laden, le Qatar et l'Arabie, dans le besoin matériel, ça ne tient pas. Donc, ce sont, etc. Chaque fois, c'est, on trouve une raison et elle est réfutée. Moi, je ne résoudrai pas ce problème parce que j'ai introduit pour cela des concepts qui demanderaient un peu de temps, mais j'ai introduit le concept de culpabilité perverse. Culpabilité perverse, c'est quand vous affichez coupable pour être responsable du problème, c'est-à-dire pour accaparer le problème et faire la loi autour de vous. Notamment quand vous faites ça, et l'establishment français fait ça très bien, vous pouvez trompeter des discours sur la Shoah absolument fantastiques. Bien, vous voyez les discours de Valls, etc. Et vous pouvez en même temps être incapable d'arrêter ceux qui attaquent des juifs qui traversent dans une rue, tout simplement parce que ça vous obligerait à affronter ce point qu'il faut absolument dénier, et c'est en fait le vrai point noir de la culture islamique et de la religion islamique, c'est qu'elle s'est construite sur le rejet total de ceux à qui elle a emprunté son message, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et notamment les juifs. Il faut, et de ce point de vue-là, vous comprenez que la résurgence d'Israël, c'est comme si le refoulé dans le texte même arabe ressurgissait et s'incarnait. C'est très difficile à intégrer. Et je vais vous dire la raison psychologique du départ des juifs, selon moi, des terres, c'est que, bien sûr, Israël a eu un rôle qui n'est pas celui qu'on croit, le rôle factuel des agents sionistes qui font de la propagande, etc. Bien avant, on était, on chantait Sion, on rêvait de Sion, etc. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très normal, mais ça ferait du bien à beaucoup de musulmans de le comprendre, c'est que les juifs étant des êtres absolument méprisables, une fois qu'ils acquièrent de la culture occidentale, ça devient très difficile à supporter, comme ça a été dit. Mais ça, c'est pas très grave, parce que les musulmans aussi se sont mis à acquérir de la culture moderne. Ce qui est très grave, c'est que les juifs qui sont méprisables, incapables et pervers, ineptes, voués à l'échec, sont là, debout, par exemple à Marrakech ou Casablanca, en même temps qu'ailleurs, des juifs donnent une raclée à des troupes arabes. Ça, ça fait une schise dans le regard qu'on porte sur eux. Parce que là, ça devient louche. Ce même juif, parce qu'il y a une idée unificatrice. Ce même juif qui fait partie du peuple juif, donc qui est le frère de celui qui est là-bas, c'est pas possible. Et je l'ai vu ce phénomène au niveau des bureaux, des bureaucraties, quand après le départ des Français à Marrakech, si dans une administration le plus compétent c'est un juif, bon, il passe au deuxième rang parce qu'il est exclu que ce soit un juif qui dirige, et vous imaginez la gêne du sous-chef qui doit donner des ordres à quelqu'un de plus compétent. Mais c'est la même chose. Donc, le déni porte sur quelque chose que la pensée européenne a du mal. Et je ne sais même pas si elle arrivera à le digérer, parce que ça contredit totalement, je dirais, sa Bible des Lumières. La Bible des Lumières, elle dit, quand elle parle de droit, tout homme, etc., quelle que soit son origine, sa religion, sa race, sa couleur, quelle que soit. Et là, l'Europe se trouve face à un problème identitaire ou une identité inscrite dans ses textes qu'elle récuse ceux qui se réclament de cette universalité. C'est écrit. Et c'est très difficile de faire bouger ça. Et donc, l'Europe chrétienne a choisi de jeter un voile là-dessus ou de se voiler la face. Et lorsqu'apparaît, il y a déjà un événement très inquiétant. Le monde chrétien au Moyen-Orient est passé de 20% de la population à 4%. On aurait dû avoir un tollé dans le monde chrétien. On a de la compassion. Un monsieur va là-bas pour apporter quoi? De l'espérance. Mais oui, mais c'est ça le style européen. Quand il y a une catastrophe, même aux portes de l'Europe, quand il y a une catastrophe, on attend que les gens soient écrasés et ensuite on apporte l'aide humanitaire. Parce qu'on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les abandonner. Mais si, justement, on les a abandonnés. Sauf qu'il y a un os, là il y a un caillou sur lequel on ne peut pas passer, c'est le caillou juif. Là, qu'on les abandonne, c'est pas grave, ils se débrouillent. Mais le problème, c'est comment parler d'eux, comment parler de ce phénomène. Et là, un jour, je vous raconte juste une ou deux anecdotes. J'étais à Jérusalem dans un taxi arabe. Du coup, je parle arabe et on sympathise. Et du coup, il se lâche un peu. Il dit, bah, tu vois, cette rue qu'on traverse là, eh bien, c'était entièrement des boutiques et des maisons arabes, des deux côtés. Je lui dis, tu vois, si on était à Marrakech et qu'on roulait, je t'aurais montré la même rue avec au bord que des maisons juives et des boutiques juives. Résultat, il s'est tué. Ça veut dire que le problème est profond et il amène l'Europe, si vous voulez. Alors, autre dimension du truc, on nous apprend que Israël a voté, enfin le Parlement a voté, qui reconnaît, etc. Moi, c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas invité dans ce genre de choses, c'est que moi je ne suis pas très doué pour aller commémorer des pleurnicheries sur comment on a souffert là-bas, qu'est-ce que c'était dur. Moi j'ai intitulé mon roman Marrakech, Le départ. Et des gens me disent, ah j'ai lu votre roman, c'est formidable Marrakech, le retour. Je dis non, c'est le départ. C'est le départ. Et moi, je vais vous dire, j'aime Marrakech parce que j'ai mûri là-bas le désir de départ. Et on peut aimer un lieu. Et on peut aimer un lieu parce qu'il vous donne l'envie d'en partir. Et pour moi, ça a été une libération absolument sans aucune amertume. J'ai pas l'air amer, pas, c'était bon de partir. Et quand je suis venu à Paris, c'était formidable. On a été reçus dans des administrations juives qui nous ont aidés. Et mon premier choc a été que la personne derrière le bureau, je suis entré avec mon père, elle a dit « Asseyez-vous ». J'avais jamais entendu ça. Si je faisais des démarches à Marrakech pour le passeport, pour les papiers, mais je restais debout. Voilà. Mais là, on m'a dit « Asseyez-vous ». Et du coup, je me suis dit « Mais on a des droits !» Et on l'ignorait. Et voilà comment les choses se goupillent. Moi, je dirais qu'ils ont bien fait de voter cette loi. Pour eux, ça leur fera du bien à eux, parce que ça les aidera aussi à surmonter les effets de l'homme nouveau que les juifs nord-africains ont pris en pleine figure quand ils arrivaient. Ah, ils n'étaient sûrement pas l'homme nouveau, hein. Ils étaient l'homme, le juif, avec ses racines, avec sa paracha, avec tout le truc religieux. Du coup, on les a cerclés, identité religieuse, comme c'était en plus leur seul référent. Et on n'a pas vu que ça pouvait être un potentiel formidable de création, d'amour, d'ouverture, etc. Alors aujourd'hui, vous savez, j'étais un soir à une conférence sur violence et islam, et il y avait à côté de moi M. Bencher, je peux le nommer, qui fait la télé le dimanche matin. Et il a commencé, il avait la parole au début, il a dit « Il n'y a aucun rapport, voilà le déni, entre l'islam et la violence de ceux qui s'en réclament. » Tout simplement, et il a cité son Coran, il a dit, tout simplement, à cause de ce verset, « Ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré. » Et moi, j'étais à côté de lui, et je lui ai dit, « Est-ce que vous pouvez me dire la sourate et le verset ?» Il le dit. J'ouvre mon petit Coran, que je connais très bien, et je lis le verset, « Ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré, sauf pour une cause juste. » Et je lui ai dit, mais mon cher, c'est ça, c'est cela même dont se réclament ceux qui œuvrent pour ceux qui sont dans cette violence. Autrement dit, le problème aujourd'hui, et je termine là-dessus, j'imagine que c'est la fin, je termine, le problème pour moi, ce n'est pas l'islam. Le problème, c'est la phobie chez les responsables européens et occidentaux. Le problème, c'est leur islamophobie. Et le joli paradoxe, c'est qu'ils ne cessent de la dénoncer chez les autres comme forme de racisme pour les mater, pour leur faire la loi, alors qu'ils sont les premiers à avoir peur. Ça veut dire que dans un bahut, quand des élèves musulmans harcèlent une petite juive au cri de « c'est la juive », etc., le proviseur ou le surveillant, etc., s'enferme dans son bureau et ressort quand on cesse ces frottements intercommunautaires, c'est-à-dire quand l'agression a cessé. La vraie peur, c'est là. Et c'est cette peur qui peut nous inquiéter. Sinon, l'islam, il se débrouillera avec ça. C'est une civilisation, une culture. Ils verront bien un jour le problème. Le jour où ils verront que le déni du problème verrouille les libérations, parce que toutes ces révolutions arabes, dont on ne peut pas dire que c'est des succès, tiennent à ce déni. C'est que si on lève ce déni à ce moment-là, l'islam n'est plus une politique et devient une religion. C'est donc la peur des dirigeants qui peut nous inquiéter. C'est elle le vrai problème. Merci. Thank you. Messieurs, dames, la soirée est dense. Nous appelons Hélène Trigano au pupitre, puisque là, vous allez avoir, après tout le propos tenu, vous allez avoir par l'image, le son, l'image et le film, le travail de fourmi qu'Hélène va vous expliquer.
L'article du débat, il est sorti.
Merci.